Pour ceux qui ne connaissent pas Éric Laurent et Éric Laurent, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que, Éric Laurent, je vais vous demander de vous présenter. Voilà, pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent pas.
Écoutez, je...
Ah oui, c'est original ça.
Je suis journaliste, éditeur, et voilà, donc j'écris des livres d'enquête. Le dernier en date étant...
Voilà, la vague cachée de banque.
Voilà, formidable. Merci.
Ah ben formidable, j'ai énormément de lecteurs et de lectrices qui m'ont envoyé des mails en disant qu'ils avaient lu le livre d'Éric Laurent. Et donc ils m'ont envoyé des petites vidéos hein, auxquelles vous avez participé. Et alors je tiens à vous dire que bah, à l'époque, hein, ben, ça ne rajeunit pas tout ça, à l'époque du Quotidien de Paris, je faisais très souvent des articles sur vos, notamment là, un livre que, que j'avais beaucoup aimé, c'est La puce et les géants. Dans lequel vous montriez comment le Japon, hein, pour l'informatique, la grande bataille de l'informatique, comment les Américains vendaient leur âme au diable déjà, hein, aux Japonais, hein, puisque leur donnaient l'ensemble de leur savoir-faire, sachant très bien qu'ils vont construire à bas coût dans les 3 ou 4 prochaines années. Mais tout ça pour le bien de Wall Street. Et c'est absolument étonnant que déjà dans ce livre, ces magouilles sortaient, mais à l'époque c'était pas aussi flagrant, hein, c'était pas aussi fort.
Mais parce qu'il y avait à l'époque, c'était effectivement concentré dans la Silicon Valley, donc c'était un lieu un peu à part au sein des États-Unis. C'était une espèce de pointe extrême du capitalisme,
oui.
Et c'était pas le cœur du système. C'était encore la périphérie. D'ailleurs, c'est devenu une des, je dirais, une des composantes aujourd'hui dominantes du système. Mais c'est à l'époque des années 80, quand j'enquêtais, c'était pas le cœur. Voilà.
Alors, donc, on va revenir à votre livre. Je trouve que c'est un... Je n'ai pas fini, mais j'ai marqué plein de pages, alors je ne sais pas trop par où commencer. Mais en tout cas, nous, ici, on fait cette revue de presse, là, depuis... On fait ensemble depuis un an, le blog, lui, il existe depuis 2 ans. Mais votre livre est encore plus effrayant que toutes les informations que nous donnons ici. Parce que vous êtes véritablement rentré, vous avez rencontré tous les acteurs, donc à New York et un peu partout aux États-Unis. Celui que vous l'avez fait de quelle époque, enfin de quelle
année? 8 mois. 8 mois, enquête et écriture. Voilà, donc c'est après l'effondrement financier de 2008.
Donc là, effectivement, ça fait peur, on va y revenir. Alors, juste une info, par exemple, Alors, allez, on va vous faire lire celle-là. Quand les Grecs veulent aller se faire voir en Chine. Voilà, lisez ça pour nos auditeurs réunis. C'est drôle.
Du 1er au 3 décembre 2009, merveilleux, la finance est devenue Alice au pays des merveilles. Vous voyez cette surréaliste information sur les ministres des finances grecs qui, désespérant de ne pas trouver de preneur, a décidé d'aller en Chine pour placer ses 25 milliards d'euros de bons du trésor au nom de la dette publique. La dette grecque à bon dos, si j'ose m'exprimer ainsi, mais déjà là une touche, excusez-moi. Greece has been in touch with Chinese, is still a very early stage. Lire le Wall Street Journal et Ambrose et Ralph Prichard. Oui, excusez-moi, j'ai pas mis les lettres, donc évidemment c'est...
Ah, pardon,
la Chine, achetez vraiment le Parthénon. Tiens, voyez ce papier du Monde. Vite, annonce de liquidation à Athènes la crise qui frappe. Je lis si mal que ça. Je lis un peu de façon étonnante. À Athènes la crise qui frappe la Grèce avec du retard. Sur ses partenaires est désormais visible. Premier employeur privé, le commerce est étranglé par l'absence de liquidité et la chute de la demande intérieure, moteur ces dernières années d'une des plus fortes croissances de la zone euro autour de 4%. Le bâtiment est en panne avec un recul de 28%. Et des permis de construire un pays de PME et des faillites d'entreprises progresseront encore de 15%. Et ça, c'est très intéressant, ceci dit, parce que on a beaucoup parlé de Dubaï, qui était une espèce de premier domino en train de tomber, mais on n'évoquait pas la Grèce, mais notamment l'Espagne, qui sont des pays au sein de la zone euro, où en effet, donc on sait que la dette grecque a dépassé les 110% aujourd'hui, et donc c'est vraiment une menace à l'intérieur même de notre système européen qui est en train de se procéder, mais personne, évidemment, n'est prêt à le dire, à le formuler parmi les dirigeants politiques.
Alors, justement, Eric, pourquoi? Pourquoi la presse économique française est aussi timorée?
Timorée, c'est même pas le terme. C'est inexistante, quasiment. Enfin, il n'y a rien.
Je dois dire que je vous rejoindrai, c'est pas seulement la presse économique, je trouve que la presse aujourd'hui ne remplit pas son rôle. Ça, c'est le premier point. Et c'est pas seulement la presse économique qui peut être incriminée, mais c'est l'ensemble, effectivement, des médias. Parce que d'abord, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un sujet sur lequel on a un peu les politiques ont décidé de tourner la page. Et donc, comme il y a une docilité des médias, eh bien, ces médias les suivent, effectivement, et on préfère, effectivement, des discussions byzantines et sans intérêt sans fin avec
les gens.
Mais plutôt qu'en effet aborder les vrais problèmes, comme si en effet on craignait. Il y a l'idée quand même chez les politiques aujourd'hui, et chez les responsables, d'ailleurs aussi financiers, qu'il faut effacer des esprits la crise. Il faut créer l'oubli. Et ça, je crois que c'est très important aujourd'hui, c'est-à-dire, au fond, restaurer la confiance. Mais restaurer la confiance impliquerait qu'effectivement l'économie reprenne, qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles qui se profilent à l'horizon. Et les gens sont quand même moins stupides que, évidemment, les informations, plutôt la communication politique, on essaie de leur vendre.
Et déjà, les banquiers puissent se faire confiance, parce que si les banquiers ne se font pas confiance, comment les consommateurs pourraient se faire confiance?
Mais non seulement les banquiers ne se font pas confiance, mais les banquiers ne cessent encore aujourd'hui, un an après la crise, de susciter la déchéance par leur comportement. Donc, par conséquent, c'est évidemment une démarche, cette démarche vouée à l'échec. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de reprise sans restauration de la confiance. Ça, c'est clair, parce que tout système financier ne repose que sur la confiance. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, c'est pathétiquement naïf et surtout cynique de la part des politiques. Voilà.
Ah, naïf et cynique, alors je...
Oui, de la part des politiques.
Après, évidemment. Mais évidemment. Le fait que la collusion que Arnaud Lagardère possède une partie de la presse, que ce soit un ami de Nicolas Sarkozy, le fait que France 2, France 3, etc., soit que l'AFP appartienne à l'État, etc., vous n'avez pas l'impression que ça aide beaucoup, effectivement, à cet oubli. Qu'est-ce qu'il y a comme médicament pour qu'on puisse... C'est Alzheimer, hein, c'est qu'on puisse oublier tout ça. On est rentré dans une phase d'Alzheimer, hein. C'est une maladie, hein. L'Alzheimer économique, là, en ce moment, hein, c'est curieux. Hein.
La question que je me pose, c'est, finalement, dans ce désir d'oubli dont vous parlez, Eric Laurent, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette allusion qu'on pourrait faire sur le fait qu'on mette la tête sous le sable, dans le sable, et que dans ce sens-là, c'est pas régler le problème que de mettre la tête dans le sable.
On l'a très bien vu, pardon, à Pittsburgh, ce fameux sommet qui, soi-disant, devait jusqu'à brosser, effectivement, les contours d'une gouvernance mondiale. On a très bien vu qu'en effet, d'ailleurs l'élite, le conseiller de Sarko l'a dit très clairement, il a dit que c'était à Hall de Gare, cette réunion. C'est quand même, c'est-à-dire que chacun tirait à lui et à dire en fonction de ses intérêts nationaux, les Européens, les Américains n'étaient pas d'accord, les pays émergents n'étaient pas d'accord avec les Européens et les Américains. Enfin bref, voilà, c'était une cacophonie totale. Et on a, là encore une fois, je veux dire, on a menti à l'opinion, je veux dire, on a parlé des paradis fiscaux et de la lutte acharnée qu'on devait effectivement, oui, oui. Je veux dire, engager contre eux, mais que je sache, les paradis fiscaux, quel que soit le côté répréhensible qu'ils puissent avoir, ne sont pas, je veux dire, à l'origine de la crise. On a parlé aussi de lutter contre les traders, les bonus des traders. Et c'est comme si
Eric avait donné. Si vous me permettez, je vais vous lire. Parce que dans votre livre, il y a un extrait. Alors là, c'est génial parce qu'on en a parlé tout à l'heure en antenne. Mm-hmm. Là, vous êtes arrivé exactement au bon moment. Alors là, c'est page 118 de votre livre, La face cachée des banques chez Plomb. Scandale et révélation sur le milieu financier, bah, franchement, excellent, excellent, bravo. Vraiment, vous avez fait un travail de bénédictin, si je puis me permettre. Écoutez bien, parce que c'est un exemple, tout le monde, tous nos éditeurs et auditrices vont pouvoir le comprendre. Voilà. C'est l'ancien financier Michael Lewis décrit les prêts, donc les prêts consentis aux gens aux États-Unis à partir de 2005, à des clients qui n'auraient jamais dû en bénéficier, des acheteurs qui se transforment en spéculateurs. Alors, écoutez bien, un ouvrier agricole mexicain, ramasseur de fraises, disposant d'un revenu annuel de 14 000 dollars, et ne parlant pas anglais, s'était vu prêter jusqu'au dernier centime nécessaire pour acheter une maison de 720 000 dollars. Je ne sais pas si vous imaginez quand même, c'est quand même extraordinaire. Les prêts étaient consentis à des gens qui, selon les critères d'attribution normaux, des crédits, étaient les moins solvables. Donc c'était calculé, hein, c'était prêter de l'argent qui, surtout aux gens qui ne pouvaient pas rembourser. À la limite, ils auraient pris des dettes dans la rue, ils auraient signé des prêts. Alors, je finis. Et il rapporte l'histoire d'une femme de ménage jamaïcaine qui s'était retrouvée propriétaire de 5 maisons dans le Queens à New York. Après l'achat de la première, comme sa valeur montait, les prêteurs sont revenus et lui ont suggéré même un refinancement de 250 000 dollars qui lui permettait d'en acheter une autre. Là aussi, le prix grimpait et ils ont réédité l'expérience. Lorsque le marché s'était effondré, ils furent bien sûr incapables d'assurer les remboursements, d'où la fameuse crise de subprime. Alors, Eric, franchement, c'est extraordinaire cet exemple. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Ils ont pris les gens qui ne pouvaient pas rembourser, ils le savaient.
Bien sûr.
Ah, ça, mais, ça veut dire.
Mais ça veut dire une chose très simple. Les banques sont le cœur du système. Elles sont devenues le cœur, au fond, du problème. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, ayant été à l'origine de cette crise, elles ont été également les seules bénéficiaires. Et la chose fascinante, c'est que je me suis rendu compte que les banques sont des marchands, au fond, étaient des fabricants de dettes. Voilà, c'est ça. Et ça correspondait aussi à une tendance profonde, c'est-à-dire que vous avez, dans l'opinion américaine notamment, et l'opinion européenne, des difficultés constantes rencontrées notamment par la classe moyenne. Et on voit très bien aujourd'hui, j'ai publié d'ailleurs l'étude d'un professeur de Harvard remarquable, qui explique comment il est de plus en plus difficile pour une famille de la classe moyenne américaine de vivre avec deux salaires. Et avec deux salaires, le revenu est inférieur à ce qui était le revenu d'une famille avec un seul salaire 20 ans auparavant. Et la perte d'un des deux salaires, bien entendu, est une catastrophe. Et d'ailleurs, elle a intitulé son étude « La classe moyenne au bord du gouffre ». Voilà. Et c'est vrai, ce qui est valable aux États-Unis est valable en Europe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, les banques, celles des charognards, il faut bien le dire, se sont emparées de ces dettes. Et au fond, elles n'ont jamais gagné autant d'argent qu'avec les défauts de paiement, avec les découverts, etc. C'est comme dans les côtés, en fait. Non,
c'est
60% aujourd'hui, ce que j'ai appris, 60%, des profits réalisés par les banques, je veux dire par les banques de dépôt, sont réalisés aux États-Unis à travers justement ça, les pénalités, les défauts.
Oui, mais c'est pareil, oui. C'est exactement pareil.
C'est la cynisme absolue. Et donc, pourquoi a-t-on utilisé effectivement les emprunts de ces gens qui n'auraient jamais dû effectivement ces crédits poubelles, au fond, de gens qui n'auraient jamais dû les percevoir? Mais c'est parce que cette crise a été une formidable arnaque, il faut le dire. C'est-à-dire que les banques, le système, le secteur financier a menti. Non seulement il a menti, mais il a tourné les lois, il a violé les règlements. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc ils se sont dit, les banques se sont dit, pour spéculer massivement, il faut qu'on ait des produits présentables et donc de qualité. Et donc on a inventé ce qu'on appelle la titrisation, c'est-à-dire qu'on pouvait comme ça, donc dans un seul produit, rassembler des centaines de prêts, de morceaux de prêts, comme ça, découpés. Et donc, ce crédit, peu importe qu'il était de mauvaise qualité, parce que les agences de notation, les fameuses grandes agences de notation, les grandes entreprises, même les États, etc., étaient de mèche avec les banques, ce que je raconte, et donc, elles récupéraient ces crédits déchets, elles les remaquillaient en notre triple A, exactement comme les bons du Trésor américain. On était dans une arnaque, c'est ce que je dis au début du livre. J'explique que Bernard Madoff, c'était le fusible idéal. Je veux dire, pour détourner l'attention des véritables responsables qui sont effectivement responsables d'une autre ampleur.
Eric, juste une question. Faisons une parenthèse avant de revenir au-dessus. Tout l'argent de Madoff, il est passé où? Dans votre enquête,
il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dites.
On dit beaucoup de choses, on dit qu'en effet, il faut passer effectivement que, je ne sais pas, les fonds de pension de l'armée israélienne, la famille de Monaco, etc. et tout, le Vatican, mais là, on est, je crois, il n'y a pas de preuves réelles, donc on est plutôt dans le domaine du fantasme. Mais il y a probablement, en effet, les sommes sont tellement énormes qu'il y a une partie...
Juste pour revenir, nous, on avait donné une info ici à 4-5 mois, et c'était grâce à la maîtresse de Madoff qui avait, bien entendu, elle a profité du fait, elle a écrit ses souvenirs, donc, et la maîtresse de Madoff a expliqué comment elle l'a rencontré. Alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est un millionnaire français, donc qui a fait un don à une organisation caritative, je vais aller, juive, à Paris, et donc, ce millionnaire a donné, je ne sais plus combien de millions de dollars à cette organisation, en disant, je vous donne à la seule condition que vous le placiez chez Madoff à New York. Déjà, rien que ça, hein, parce que si vous, Eric Laurent, vous donnez, je ne sais pas, 10 000 euros aux petites sœurs des pauvres, Notre-Dame des Sept Douleurs, vous n'allez pas leur dire, j'exige que vous le mettiez en Côte d'Ivoire chez LCL ou en subprime chez Madoff. Hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire selon vous, ça?
Non, ça veut dire qu'il y a un système, effectivement, de rabatteurs.
Moi, je suis d'accord.
Oui, mais bien sûr. On sait très bien, on connaît des noms, effectivement, bien sûr, qui étaient chargés de rapatrier, effectivement, l'argent.
Donc, on est d'accord. Donc, l'argent de Madoff allait bien quelque part, et c'est extrêmement précis.
Alors, moi,
c'est vraiment un sentiment que j'ai, hein. Alors, c'est, à tout le monde, d'ailleurs.
Plusieurs questions.
La première serait, suite à la description que vous êtes en train de faire, on voit finalement à quel point déjà, on peut parler de Goldman Sachs, suite à un article paru dans Rolling Stone, à quel point depuis plusieurs années, les différents dirigeants de Goldman Sachs se sont mis au sein du gouvernement américain, malgré les différents présidents, ont changé les lois comme vous l'avez dit. Vous parlez de hold-up, c'est un hold-up. Je suis plus qu'étonné parce que ce que vous dites là, ça paraît une évidence, apparemment pas pour nos politiques, notamment Christine Lagarde. Je me pose la question de savoir si c'est tellement flagrant, si c'est le plus grand hold-up mafieux du monde, parce que ça touche le monde entier. Pourquoi nos dirigeants politiques, quels qu'ils soient à la surface de la Terre, ne disent pas, bon bah là c'est un hold-up, allez, tribunaux, trahison, voilà. Là, on est dans un système oligarchie, les nations n'existent plus.
Mais vous avez utilisé le mot juste, c'est-à-dire le terme d'oligarchie. Il n'est pas de moi, je le cite dans le livre. Il y a l'ancien chef économiste que je cite du Fonds monétaire international, Simon Johnston, qui dit qu'il y a aux États-Unis reconstitution d'une oligarchie financière. Et il y a en fait... il faut, pour comprendre la situation actuelle, reprendre toute une trajectoire historique. C'est-à-dire qu'entre dans les années 10 et dans les années 20, le monde bancaire américain dominait la vie publique et la vie politique. C'est-à-dire que toutes les crises, notamment le grand crash ou la grande crise de 1907, a été gérée directement par les grandes banques, les grands banquiers, sans même qu'on s'y consulte une seconde les politiques. Ils ont par exemple décidé de créer la Federal Reserve. Il y a une naïveté aujourd'hui de penser que la Federal Reserve est un organisme public qui correspond à l'intérêt général.
Non,
elle correspond à un seul intérêt, celui des banquiers. D'ailleurs, c'est dans ses statuts, c'est-à-dire aider les banques, ça c'est tout. Et ça a été créé effectivement par les banquiers. Bon. Ensuite, il y a 1929. Et là, évidemment, bien sûr avec le crash, l'apparition du New Deal, un certain nombre de mesures d'encadrement, ces banques ont vu leur influence diminuer et en plus elles ont été entravées dans leur fonctionnement. Et elles n'ont eu de cesse ensuite que de retrouver effectivement ce pouvoir perdu. Et une des grandes découvertes de mon livre, ça j'ai fait le premier choix, c'est de voir que la collusion qui existe entre le secteur financier et le pouvoir politique n'est pas une collusion en collusion entre Wall Street et le Parti républicain, mais entre Wall Street et le Parti démocrate. Le parti de Wall Street, c'est le Parti démocrate. Pour une raison que je ne me suis pas d'abord expliqué, puis j'ai compris, c'était que les grands bastions, politiques du pays, sont également les grands centres financiers, c'est-à-dire New York, bien sûr, Chicago, où on a fabriqué les fameux dérivés qui ont provoqué la crise financière actuelle, bien sûr Boston à un degré moins, et San Francisco. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a aujourd'hui le retour en force de l'oligarchie financière. Et toutes ces règles qui avaient été édictées et qui entravaient le fonctionnement des banques, mais pour le plus grand bien, d'ailleurs, des consommateurs comme vous, a été abolie durant les années Clinton. Clinton est l'homme qui a vendu réellement son âme à Wall Street.
D'ailleurs, vous le racontez dans le livre. Hein,
c'est une scène absolument étonnante où il y a ce personnage qui est très bien regardé de Goldman Sachs, qui était son ministre des Finances, il a poussé la dérégulation. Et qui est derrière lui au moment où il signe en effet l'acte de dérégulation utile qui donne évidemment le coup des franches et qui offre le coup des franches aux banques.
Je ne sais pas si vous aviez entendu juste avant que vous arriviez, on parlait de Chelsea Clinton qui s'est marié avec un membre de Goldman Sachs.
Fiancé. On en vient de donner une serre rose.
Ah, Eric Durand, félicitations.
Donc elle va épouser un monsieur Goldman Sachs, évidemment.
Il n'a pas répondu à ma question quand même. Je la repose. Donc, suite à ce constat, comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, les tribunaux européens ou autres...
Mais pour deux raisons. Pour le cas des États-Unis, quand on voit par exemple aujourd'hui l'administration Obama, et entre les mains, vraiment d'hommes qui ont favorisé cette dérégulation ultime, c'est-à-dire qui ont été les pires spéculateurs. Vous prenez un homme comme Lawrence Summers, qui était justement un des héros de la dérégulation du temps de Clinton. Il est aujourd'hui le principal conseiller d'Obama, après avoir dirigé un énorme fonds spéculatif, juste avant effectivement l'effondrement des marchés. Vous prenez des quantités de personnages autour de lui, par exemple les principaux soutiens. Et c'est la grande différence avec Clinton. Clinton est un petit politicien, au fond, populiste de l'Arkansas, qui ensuite a été séduit par le monde financier. Mais dans le cas de Obama, c'est totalement différent. Il a incubé dans une ville qui est un grand centre financier, donc Chicago. Et à chaque étape donc, de son ascension politique, de sa carrière, il a été
soutenu, appuyé, mais véritablement favorisé par les milieux financiers.
Vous le montrez bien d'ailleurs.
Oui, oui, mais c'est à chaque étape, pas seulement les milieux financiers, mais également les fonds spéculatifs, c'est-à-dire les fonds spéculatifs, ceux qui ont aggravé, c'est-à-dire la crise déjà très forte, et même les industries d'armement. Par exemple, un des plus forts soutiens d'Obama, tout au long de sa carrière, c'est une famille, les Crom, qui possède General Dynamics, qui fabrique les F-18, qui sont les plus gros contractants du Patagone.
D'accord, donc ça c'est. Donc la chose, c'est pas prêt de le voir devant le tribunal, c'est ça c'est
d'accord. Le... Voilà, donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est l'impuissance aujourd'hui, d'une façon plus large, du politique face au secteur financier. Aujourd'hui, nous sommes face, avec la finance, face à un secteur totalement globalisé, mondialisé.
Donc techniquement, la mondialisation réussit.
Vous dites donc que le financier a volé le pouvoir aux politiques.
Ah, mais aujourd'hui, les politiques fonctionnent avec des outils, au fond, qui sont des outils. Du début du XXe siècle, alors que la finance, évidemment, a plusieurs longueurs d'avance, et chaque coup, je veux dire, tenté par les politiques, évidemment, aura 10 coudées ou 10 longueurs de retard.
Alors, je lis un extrait du livre. On l'a abordé ici, on en a parlé, mais dans le livre d'Éric, c'est encore plus flagrant. Alors là, on est page 160. Alors, pendant 6 mois cruciaux, donc de mars à septembre 2008, 4 firmes financières n'ayant aucun compte à rendre à quiconque ont littéralement imposé leur loi et leur absence de scrupules à l'ensemble du monde. Là, c'est vous qui dites ça. À la fin de l'été, selon Matt Taibbi, hein, donc de Rolling Stone, les spéculateurs avaient acheté et empilé assez de contrats à terme pour remplir 1,1 milliard de barils de pétrole. Ce qui signifiait que ces spéculateurs détenaient, sur le papier, plus de pétrole qu'il n'en existait en réalité, physiquement stocké dans tous les pays, stocks commerciaux et réserves, qui plus est réserves stratégiques combinées, ce qui est quand même assez dingue. Et alors, quand le marché se retourna à l'automne 2008, le prix du brut glissant rapidement de $147 aux environs de $33 le baril, le terrain était jonché de cadavres. Mais Goldman Sachs et ses pairs avaient anticipé le basculement en prenant cette fois des positions à la baisse, qui de nouveau allait générer pour eux des fructueux profits. Alors c'est quand même extraordinaire, parce que je veux dire que ce soit pour le pétrole, c'est-à-dire qu'ils ont fait monter le pétrole, donc à un cours record, tout le monde s'en souvient, malheureusement et douloureusement, on porte flèche, avant on faisait le plein, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, ils gagnent toujours parce que c'est eux, littéralement, qui semblent l'organiser. C'est comme un espèce de chef d'orchestre diabolique qui est en train de donner le ton au reste des politiques avec ce genre de choses. Sans parler des, je pense que vous l'avez vu, c'est le Télégraphe et tous les journaux anglais qui l'ont donné avec tous ces pétroliers qui tournent autour de l'Angleterre en attendant le bon cours du pétrole. Et qu'est-ce qui vous choque le plus dans toute cette enquête que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué?
C'est, je dirais, l'avidité sans limite de ces hommes, leur cynisme, je veux dire, au-delà du pensable, ce que je n'ai jamais vu dans le monde des affaires auparavant, et un sentiment absolument odieux qu'ils dégagent, un sentiment d'impunité absolue. C'est-à-dire, je cite un banquier que j'avais rencontré et qui me disait, vous savez, de toute façon, il y a une chose que vous devez comprendre, nous sommes toujours gagnants. Et c'est vrai.
Est-ce qu'on pourrait les qualifier de psychopathes?
Non, je crois pas.
Non, ouais, non. Parce que dans ce cynisme dont vous parlez à l'heure actuelle,
les maîtres du monde,
on pourrait les comparer à des serial killers, c'est-à-dire que ça ne les inquiète pas de savoir s'il y a des millions d'entraîneurs à droite ou à gauche du moment qu'ils faisaient de l'argent.
Alors c'est ça, quand je parlais de cynisme, c'est l'indifférence aux conséquences de leurs actes. C'est le fait que des millions de personnes perdent leur emploi aujourd'hui, que des gens en effet se retrouvent. Ah mais alors là, c'est pas si grave. À un moment donné, j'ai une discussion qui tourne cours avec un banquier qui me dit, écoutez, je commence à lui parler de ça, il dit, tout ce qui concerne l'économie réelle ne m'intéresse pas. Et vraiment, c'est sans appel.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, d'accord.
Alors,
Il faut savoir aussi, je vous appelle, c'est comme il faut expliquer que ces firmes, donc de Wall Street, sont des firmes qui n'ont donc pas de dépôt, elles n'ont pas de clients, et elles sont uniquement profilées pour la spéculation. Uniquement. C'est-à-dire Goldman Sachs, Morgan Stanley, c'est tout. Donc, les profits records qu'elles dégagent ne génèrent aucune richesse nationale, c'est tout. Mais par ailleurs, il faut quand même souligner que ça n'est pas l'Amérique. Wall Street n'est pas l'Amérique. Vous voyez, vous avez un secteur bancaire américain qui est en crise. Vous êtes, je crois, on en est aujourd'hui à 118 faillites de banques de petite et de moyenne taille. C'est-à-dire que le paysage économique américain se dégrade pendant qu'en effet, Goldman Sachs peut cette année afficher 18 milliards de dollars de bonus pour ça.
Alors, la question suite à ce livre que vous avez écrit, on voit le nombre, entre guillemets, d'experts qui arrivent sur le plateau de télévision, qui viennent nous parler de blablabla. Puis qui est sorti, est-ce que vous avez été invité à une seule chaîne de télévision?
Enfin, une grande chaîne de télé
très peu, mais vous savez, c'est ça qui me fascine, c'est que tous ces experts qui déchiffrent la crise, qu'ils avaient évidemment bien sûr perçu depuis des années...
Bien sûr, oui, c'était des grands visionnaires, vous avez remarqué,
ils l'avaient dit. Et surtout des solutions, etc., ils étaient très absents, je veux dire. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que je cite Galbraith qui dit « La crise révèle toujours une réalité qui a échappé aux experts ». Et c'est vrai que celui-ci révèle une réalité très forte. Non, je ne suis pas invité. Et c'est vrai que c'est de tous les livres celui qui, au niveau de la presse, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pas parano, la crise qui a le plus de difficultés à circuler. C'est-à-dire dans les circuits d'information, c'est clair. C'est
vrai. D'accord, donc on peut dire que les masses médias, de manière générale, suivent le mouvement qui a été lancé par les fameuses oligarchies. Alors, la question qui pourrait se poser maintenant, est-ce que, d'après vous, suite à cette enquête que vous avez effectuée, est-ce que tout ça, ça a été voulu? Est-ce que cette crise a été décidée, voulue? Au-delà du cynisme, est-ce que c'était une vision vraiment à court terme, le but, c'est de faire de l'argent? Ou alors, puisque vous parlez sur plusieurs générations, du système bancaire, est-ce que tout ça, ça a été voulu?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est le fruit d'une avidité, notamment à court terme, une avidité sans limite, et surtout la conjonction des deux, c'est-à-dire d'une totale liberté d'action, d'une avidité sans limite, et surtout de la découverte et l'utilisation de nouveaux outils, ces fameux crédits dérivés qu'on pouvait fabriquer, à partir desquels on fabriquait des modèles mathématiques et financiers très très complexes que personne ne comprenait exactement, et qui permettaient des effets de levier considérables. En gros, si on veut, par exemple, sachez que il y a à travers la planète, il y a 596 000 milliards, le chiffre est hallucinant, de crédits dérivés. Donc il y a des crédits dérivés qui sont justifiés sur en effet les monnaies, sur les taux d'intérêt, etc. Mais vous avez 62 000 milliards de crédits qui sont des crédits totalement spéculatifs, c'est-à-dire plus que les PNB de tous les pays de la planète réunis.
Donc techniquement, qu'est-ce qui va se passer dans ce moment?
C'est un peu comme la vache, je dis, c'est un peu comme la maladie de la vache folle, c'est-à-dire que tout le monde en a mangé, et en grande quantité, mais on ne sait pas effectivement quels sont les ceux qui, maintenant, vont déclarer la maladie. Mais il est clair qu'en effet, elle est là. Je veux dire, ces crédits toxiques sont encore dans les
banques. 35 000 milliards, effectivement.
Oui, c'est ça, non, on dit 62 000, mais enfin bon,
on a pas...
Mais on voit très bien que, par exemple, les banques allemandes ont besoin récemment d'une injection importante, que le Japon, l'Angleterre, les banques anglaises aussi ont lieu très capitalisées, pourtant elles sont déjà nationalisées quasiment, donc on a vu Dubaï, on va voir peut-être la Grèce bientôt, l'Espagne, donc voilà, ça craque, c'est comme un bas de femme, ça,
alors,
voilà,
ça se démarre. C'est mignon, je pensais pas pouvoir faire une allusion à un débat.
Dans ce débat.
À ce sujet, Strauss-Kahn, je sais pas si, il a donné une conférence conférence de presse à Londres, à laquelle a assisté Ambrose Evans-Pritchard, et donc il en a parlé. Alors, il a dit, entre autres, half of the bank's losses may still be hidden. C'est-à-dire que la moitié des pertes des banques sont toujours cachées.
Voilà.
Et en plus, il y a un autre papier, l'Apocalypse selon Saint Dominique, je trouve bien évidemment, qui s'est rappelé qu'il était socialiste. Hein, donc il a donné une conférence de presse qui n'a pas échappé à Ambrose Evans-Pritchard du Télégraphe. Alors, coup de tonnerre, DSA a déclaré qu'un nouveau sauvetage des banques mettrait les démocraties des pays occidentaux en danger. Hein? Donc, et Ambrose Evans-Pritchard, lui, il avait fait un grand papier là-dessus il y a 6 mois, et c'est intéressant que justement Strauss-Kahn le reprenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça confirme l'info comme quoi donc Bernanke et Gaitner préparent un plan stimulus 2, déguisé comme le précédent pour sauver les banques. Hein, que vous avez un joli déficit, mon enfant. Hein. C'est vraiment pour mieux préparer le deuxième sauvetage, dit le loup. Alors là, il y a un passage en anglais, bon, je ne vais pas le traduire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais Ambrose Evans-Pritchard a constaté que M. Strauss-Kahn, alors je le cite, a parlé dans des tons littéralement apocalyptiques pour la situation à venir. Elle dit que c'est un socialiste français qui a un œil sur l'Élysée. Et voici ce qu'il a dit. La colère du public est si grande qu'il sera impossible aux dirigeants français ou allemands d'orchestrer un autre sauvetage en cas d'une nouvelle crise. La réaction des gens sera très forte, mettant les démocraties en danger. En clair, préparez-vous au pire, c'est ce qu'a dit DSK, et se démarque déjà des banquiers, les ayant accusés de mettre de l'huile sur le feu avec leur bonus indécent.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de
cette déclaration de Ça rejoint le livre, si vous avez vu.
Ah oui, non, mais c'est
là, c'est intéressant, qu'en effet, oui, j'ignorais complètement, mais quand je dis qu'en effet, les... Donc, il croit que la moitié est cachée, que
le... Oui, que la moitié est cachée, c'est ça.
Voilà, c'est là.
Voilà. La moitié des pertes des banques est cachée. En fait, techniquement, personne ne sait exactement combien elles ont de planqués, etc.
Sachant qu'elles ont changé leur règle comptable aussi.
Ils ont changé leur règle comptable.
Mais j'ai compris la règle. Il y a par exemple 234 milliards, AIG, qui est le premier assureur mondial, a essuyé des pertes considérables, etc., et a dû être recapitalisé à hauteur de 180 milliards de dollars. 180 milliards de dollars par l'argent public aux États-Unis. Et les dirigeants de la AIG n'ont rien eu de plus pressé en récupérant cet argent que de s'attribuer tout de suite des bonus. 165 millions de dollars.
Alors, est-ce que ça veut dire justement que ces fameuses oligarchies à l'heure actuelle, puisqu'elles s'accordent des bonus à tiers rivaux, et notamment certains de Goldman Sachs qui commencent à vendre leurs stock options.
Et qui achètent des armes. Avec Goldman Sachs, les banquiers demandent maintenant des ports d'armes parce qu'ils sont absolument, ils ont peur.
Alors justement,
ça date de hier, hein. On l'a donné tout à l'heure.
Le fait qu'ils s'en mettent plein les poches là, à l'heure actuelle, est-ce que ça signifie que justement pour eux, vu de ce qu'ils peuvent observer, que le système est en train de s'écrouler, est-ce que d'une certaine manière, eh bien, ils désirent s'en mettre plein les poches au maximum pour, quand le système s'écroulera, définitivement être ceux qui s'en sortiront le mieux? Ou est-ce encore une vision à court terme du ménage en disant, bon, ça c'est le système, c'est nous qui le contrôlons, on va faire en sorte que ça passe et que le système continue à fonctionner, et d'ailleurs, nos amis politiques sont derrière, on va pouvoir leur mettre en avant des politiques tout sécuritaires, comme notamment avec Nicolas Sarkozy peut le mentionner, mais c'est un peu pareil en Angleterre ou ailleurs.
Il y a le sentiment, de toute façon, que ce système, enfin que ce secteur, sera toujours, parce qu'il est systémique, parce qu'en effet, les liens sont trop étroits, sera toujours sauvé. Mais, et c'est ce qui
nous dit,
mais nous, bien sûr, c'est nous, évidemment, uniquement nous, mais ceci dit, aux conditions que posent les banquiers, c'est ça le plus important, c'est-à-dire, vous nous renflouez et après, vous écouterez au fond le détail de nos conditions. Alors après, il peut y avoir la gesticulation politique, comme celle de Sarkozy, mais c'est tout, ça va plus loin.
C'est tout à fait ça. Alors justement, Eric, écoutez bien. On a une info absolument géniale qui est sortie dans... C'est Liam Halligan, je sais pas si vous l'avez rencontré, c'est l'éditorialiste du Télégraphe de Londres, un autre. Alors il dit, 12 trilliards, ça fait combien? Savez-vous combien ça fait 12 trilliards? Eh bien, figurez-vous que c'est 12 zéros derrière 12. C'est-à-dire donc 12 trilliards de dollars de dette américaine. Autant mettre le signe de l'infini après ce 12, hein, ce serait plus simple. Alors, il dit la chose suivante, il dit que les Américains n'ont pas l'air de se rendre compte que rien que les intérêts sur cette somme risquent de les amener très rapidement à la banqueroute 66, pardon, banqueroute 666 plutôt. Et parce que, sachant que si la fin du monde doit vraiment arriver le 12-12, là je ne sais pas pourquoi, mais on est assez bien parti hein, avec cette histoire de... et d'ailleurs justement, l'or vient de toucher les 1212 dollars l'once. Alors, Qui achète la dette américaine? Parce que vous avez vu que la semaine dernière, ils ont encore vendu pour, je ne sais plus, je crois que c'est 30 ou 40 milliards de dollars. Hein, parce que à moins d'une civilisation extraterrestre qui arrive avec une flotte de secousses volantes et qui déverse des milliards et des milliards de billets de banque sur les hélicoptères de Ben Bernanke, hein, je ne vois pas très bien quelle banque centrale est assez idiote pour acheter de la dette américaine aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est le grand dilemme aujourd'hui des Chinois qui en effet s'interrogent sur la pérennité de leur politique, c'est-à-dire d'achat de gros du trésor américain.
Ils en achètent plus, hein, depuis qu'on a fait
des achats.
Ils achètent beaucoup moins par rapport à avant.
Mais il n'y a pas, pour eux, à court terme, il n'y a pas d'alternative. Ceci dit, la situation chinoise, les rapports, je crois qu'on est en train d'évoluer vers un autre monde. Et cette crise a été révélateur. J'en suis convaincu. Elle a accéléré la décomposition du système traditionnel avec la domination américaine. Et simplement, c'est un peu comme disait Gramsci, le marxiste italien, il disait le neuf voudrait naître, mais le vieux ne veut pas mourir. Eh bien, c'est là, on est entre deux mondes. Je veux dire que, visiblement, il y a un rapport de force qui est en train de modifier frontièrement, mais il y a une formidable résistance de l'ordre ancien.
Alors justement, si, alors, excuse-moi Pierre, si nous vivons dans un monde où les oligarchies dirigent, gouvernent, et on l'a bien vu, et notamment c'est mis en avant avec beaucoup de détails dans le livre, qu'est-ce que veut dire cette crise d'un point de vue géopolitique, puisque finalement si les oligarchies gouvernent, les États-nations n'existent plus réellement. Alors, comment voir le monde de demain, quand on parle de la Chine, quand on parle de la Russie, quand on parle de l'Iran, de la guerre en Afghanistan ou en Irak, qu'est-ce que ça sous-entend tout ça? Parce que c'est uniquement pour des questions de pognon et d'énergie.
Alors, il y a...
L'Irak, justement.
Il y a une nouvelle... c'est vrai qu'il y a une nouvelle donne. Alors, il y a d'abord, effectivement, eu la disparition de la relation Est-Ouest, qui était un facteur d'équilibre. Et là, quelqu'un disait que la politique, c'est avant tout la désignation d'un ennemi. Et dans le cas donc des États-Unis, ils se sont retrouvés effectivement, bien sûr, privés de cet ennemi traditionnel qui était l'Union soviétique et le communisme. Donc ils ont trouvé un substitut temporaire qui était le terrorisme. Et ça ne fonctionne pas véritablement très bien. On l'a vu après 2001, mais aujourd'hui c'est un peu une démonstration en panne, vraiment. Donc, on sent très bien que la dimension sécuritaire ne prend plus dans l'opinion. Alors, au-delà, il y a, cette crise a montré, il y a une faiblesse très forte et très grande du pouvoir américain. Et on voit très bien qu'elle est illustrée par Obama, cette manière de tendre la main, c'est un mélange à la fois, ça se voudrait une approche sophistiquée, en même temps c'est une approche d'une naïveté absolue vis-à-vis de pays dont je suis stupéfié qu'ils ne connaissent rien, qu'ils ne sachent rien, parce que c'est des pays, effectivement, et des régimes, surtout, très habitués au rapport de force, et aussi aux signaux qu'on leur envoie. Quand ils vont en Chine, comme à Canossa, comme il l'a fait, c'est quand même très mauvais, en termes d'image, pour les États-Unis, en termes de signaux envoyés aux Chinois. Quand il tend la main aux Iraniens, on voit très bien quelle est la réponse. De Téhéran, c'est interprété immédiatement comme un signe de faiblesse, non pas comme un signe de conciliation. On sait très bien qu'aujourd'hui, le pouvoir des Iraniens, le pouvoir de nuisance de l'Iran est considérable, grâce notamment, il faut le rappeler, à l'administration Bush, parce que c'est tout de même, en effet, tous les pays de la région dans le Golfe s'accordent à le reconnaître. Alors, l'Irak, cette intervention militaire qu'aujourd'hui, l'influence de l'Iran en Irak est considérable. Donc, elle est considérable également en Afghanistan, et elle est considérable aussi au Moyen-Orient, comme par exemple avec le Hamas et évidemment le Hezbollah.
Donc, justement, vous avez écrit un livre qui s'appelle Bush, l'Iran et la bombe. La guerre contre l'Iran, là, c'est pour quand?
Mais la guerre contre l'Iran, elle devait avoir lieu. C'est-à-dire que le néoconservateur voulait vraiment, dans un premier temps, voulait d'abord intervenir contre l'Iran plutôt que contre l'Irak. Ensuite, donc, Bush a choisi l'Irak. Donc, parce que ça lui paraissait plus simple, effectivement, et d'ailleurs, il a raison. Ensuite, l'Iran est revenu sur le devant de la scène, et puis, il y a eu, moi j'en suis convaincu, les Iraniens ont été sauvés par la crise financière dès 2007-2008. Dès 2007-2008, l'Amérique était totalement, l'administration Bush était frappée d'impuissance. On ne pouvait plus intervenir sur aucun terrain extérieur. Et on voit très bien à quel point, d'ailleurs, l'homme qui dominait la politique américaine à ce moment-là, c'était Paulson. C'était Henry Paulson. Tous les projets militaires ont été complètement écartés.
À vous entendre, en fait, il n'y a plus de pouvoir politique aux États-Unis. Oui, Wall Street a littéralement pris le pas.
Mais vous regardez,
à vous dire, en tout cas, c'est vraiment ça.
Vous regardez, par exemple, les déclarations qui ont été faites par Obama et la réalité. Il avait parlé, effectivement, de limiter les bonus, effectivement.
Des dirigeants, vraiment, pour le
dirigeant qui avait touché, effectivement,
interdire le bonus des traders, mais
Non, mais dans le cas de Obama, c'est ce qu'il avait dit, il a battu évidemment en retraite immédiatement. Mais c'est pas seulement ça, on voit très bien la différence de traitement entre Wall Street, par exemple, et l'automobile, qui a aussi bénéficié des aides publiques. On voit très bien que, au fond, pour 50 milliards de dollars, il a utilisé la tête du patron de General Motors, des ports de restructuration, avant en effet de verser de nouveaux crédits. Enfin bref, c'était marqué par une conditionnalité totale. Et d'ailleurs, le nouveau patron de General Motors, au bout de 7 mois, a ripé, là aussi, dit-on, sous la pression de la Maison Blanche. Dans le cas de Wall Street, on a versé 700 milliards de dollars, plus, je vous raconte, 2 000 milliards de dollars versés par la Federal Reserve sous forme de 11 prêts d'urgence. Et encore aujourd'hui, malgré toutes les démarches, quand vous tentez d'obtenir effectivement l'identité des banques qui ont obtenu cet argent, la Federal Reserve le refuse effectivement de révéler. Quoi de révéler
Bloomberg avait fait un...
Bloomberg
a fait
un machine act, et
le tribunal lui a donné raison, mais
exactement,
il l'appelle.
Voilà. Mais c'est hallucinant. Et donc, on voit très bien différents traitements. Je veux dire, jamais en effet on a exigé d'un dirigeant de Wall Street qu'il soit démis. Non seulement ça, quand Obama est arrivé au pouvoir, je veux dire, l'homme qu'il avait choisi en premier au poste de ministre des Finances, comme ministre des Finances, c'était pas Tim Geithner, le patron de la Fédérale Réserve de New York, mais c'était un de ses proches amis, qui est un des plus grands banquiers rapaces de Wall Street, surtout Jamie Dimon, et qui est le patron de JP Morgan, une des banques qui a bénéficié de 25 milliards de dollars d'aide publique, alors qu'elle n'avait peut-être pas les établissements qu'elle avait le plus besoin. D'ailleurs, on dit qu'avec cet argent, il y a une polémique, il s'est acheté notamment des jets, etc., privés, il a réaménagé l'aéroport privé de la compagnie, enfin, etc. Bon, bref, c'est scandaleux. Et d'ailleurs, il s'est employé, immédiatement après avoir touché cet argent, à délocaliser une partie des activités de la banque et des sociétés contrôlées par la banque dans des pays comme l'Inde. Voilà. C'est vous dire le patriotisme aussi de ces hommes.
Oui, parce qu'en fait, ils délocalisent. Ah, en fait, ils s'en foutent en Inde. Ils se moquent complètement
de les emplois que les Américains
ont. Ah, mais totalement. Et je ne comprends pas
de 40 ans.
C'est valable là-bas, c'est valable ici aussi.
Mais bien sûr, exactement. Mais exactement de la même manière. Ils sont indignés par quoi. Je cite une lettre d'ailleurs de 42 parlementaires américains indignés par le comportement de cet homme, Diamond, qui a fait le ministre des Finances, donc d'Obama, et qui, en effet, donc, était indigné des emplois qu'il faisait perdre, effectivement, aux États-Unis en raison des localisations. Bien sûr.
Mais on a pu voir que la semaine dernière que la Chine commence à délocaliser en Égypte.
Oui, bien sûr. Oui.
Ça, c'est vraiment les choses.
Ah, oui, alors, j'ai une info, tu ne l'as pas, parce qu'elle est tombée ce matin. Là, c'est Daimler, c'est l'allemand Daimler, qui va délocaliser donc ses usines en Allemagne, bien entendu. Écoutez bien, elle va délocaliser aux États-Unis. À cause de la puissance de l'euro, et donc comme le dollar ne vaut plus rien, ben, on va aux États-Unis pour fabriquer les voitures. Il se passe des choses étonnantes en ce moment quand même, hein. C'est absolument surréaliste.
Alors, sur 2010, là il y a notamment Lisbonne qui va être signée, Copenhague qui arrive, et cette info, donc deux vidéos, et on remercie un des auditeurs de la radio, M. Beagle, et on voit comment le début de la dictature européenne va se mettre en place avec en prime une députée hongroise, une stupidité sans nom, nous dis-tu, qui se ridiculise totalement. Et dire que la CE contrôle tout désormais de nos vies, sachez par exemple que la CE veut voter une loi pour interdire les blogs anonymes, ici dans le Télégraphe. De plus, sachez que vous n'avez même pas le droit de dire du mal de l'Europe quand vous travaillez pour elle. Lire cet article d'Ambrose Evans Pritchard. Donc, ce qui est intéressant, c'est Miguel Farage, donc un député comme on en entend le plus en France.
Vous avez vu cette vidéo, Eric? C'est un député anglais, enfin européen anglais, qui a pété un plomb littéralement à l'Assemblée, donc en disant que l'Europe a élu deux pygmées. Hein,
c'est pas faux.
Et donc il parle notamment donc du, je me souviens jamais de son nom là, du flamand là, mais surtout de la
magistrate
de la baronne Ashton, dont on a parlé ici parce que
il
n'a jamais travaillé de sa vie, qui sait même pas ce que c'est que travailler. En fait, elle a eu la bonne opportunité d'être l'épouse d'un conseiller de Tony Blair, et qui au fur et à mesure donc s'est retrouvée ministre des Affaires. Et là, c'est effectivement une partie des députés folderage, mais ce qui était étonnant là, c'était cette députée hongroise qui savait manifestement à l'avance que Nigel Farage allait donc faire un discours extrêmement musclé, violent, etc., contre l'élection de ces deux crétins. Et alors elle se lève et elle récite un texte. Vous savez, comme les enfants, vous savez, quand on vous amène au tableau et vous devez réciter une récitation. Hein, vous avez connu ça, Eric. Bon, mais aussi, alors, donc elle monte, elle se lève. Et elle récite son petit texte en anglais, et donc son anglais n'est pas assez fort, mais là, on voit bien qu'elle récite. Elle aurait dit quelque chose d'extraordinaire à ce député anglais. Elle dit, Monsieur Farage, heureusement que vous existez, car vous êtes comme un chimpanzé qui monte à l'arbre, et ça nous permet de voir ses fesses. Alors, vous imaginez la consternation dans le... Et d'ailleurs, même le Farage est resté mais complètement interloqué. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, c'est ça. Enfin, on voit bien que là, il y a quelque chose d'absolument monstrueux qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe qui prend la... Qui remplace en fait la souveraineté de tous les pays dans cette crise financière? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, je trouve que au fond les Européens raisonnent un peu. Au fond, le rêve des Européens, des dirigeants européens, c'est au fond de transformer
s'est transformé en une grande Suisse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une espèce, le sentiment que derrière leurs frontières, ils sont à l'abri. Voilà, c'est un peu ça. Et avec des personnages d'ailleurs, et des personnages politiques qui sont aujourd'hui aussi salauds ou médiocres que ceux qu'on trouve en Suisse. Même les Suisses eux-mêmes sont tout à fait incapables de, je crois la baronne Ashton, donc pour vous connaissez, je crois que les Suisses eux-mêmes sont incapables de citer les noms de leurs responsables ou les responsables du personnel politique. Donc on en est là, je crois que c'est ça.
Vous savez qu'il y a déjà des accords qui ont été signés pour faire du commerce transatlantique, que finalement les États-Unis avec l'Europe dans son ensemble forment une seule communauté où justement les frontières sont abolies d'une certaine manière. Et notamment, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez du sommet de Copenhague.
Bon, ben, pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Il ne couchera pas de grand-chose, justement. Quant au reste, mais je crois que l'Europe est avant tout une zone de libre-échange, c'est tout. Voilà. Mais l'Europe n'existera jamais tant qu'en effet, il n'y aura pas, on n'en prend pas le chemin, tant qu'il n'y aura pas une volonté de diplomatie commune, de politique étrangère commune et une politique de défense. Donc, comme c'est la baronne Ashton qui doit effectivement représenter cette politique étrangère, à mon avis, nous sommes, pas sortis de l'auberge.
J'aimerais avoir votre point de vue, Eric Laurent, si effectivement nous vivons dans un monde oligarchique. Dans ce sens-là, comment est-ce que vous pensez que l'on pourrait éventuellement changer les choses? Alors, tous les politiques ne sont pas tous pourris, hein, bien entendu, c'est une caricature de dire ça. Mais est-ce qu'il y a à l'heure actuelle sur la scène politique, on va dire française déjà, des personnes qui vous semblent intègres, pas soumises à ces fameux lobbies, suffisamment fortes, médiatiquement de surcroît, pour pouvoir éventuellement prétendre pour changer les choses?
Je pense que les systèmes sont plus forts que les hommes et que les hommes qui ont peur justement de ces systèmes n'arrivent pas à se faire entendre.
Ça, c'est gravissime ce que vous venez de dire, si le système est plus fort que les hommes qui la composent, alors là, c'est... Je parle souvent ici, ça va vous plaire, je pense, la dictature digitale. Hein. Parce que je vais vous donner un petit exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le Hollandais, donc tout achat de nouvelles voitures, à partir de 2012, sera équipé d'un GPS relié directement aux ordinateurs du fisc qui va calculer votre émission de carbone et tous les mois vous allez recevoir tout ce que vous avez à payer pour vos taxes carbone. Je sais pas si vous réalisez, je vous connais pas personnellement, mais je vous connais à travers vos livres, notamment La puce et les gens, qui est pour moi un monument. Sérieusement, je vois bien que, enfin, on voit nous ici, hein, depuis maintenant 3-4 mois, depuis la rentrée en fait, hein, on voit se mettre en place une sorte de dictature digitale à travers, que ce soit les GPS, les machins, les caméras, surveillance d'internet, de vos mails, enfin,
le patron de Visa qui prévoit qu'il n'y ait plus d'argent monnaie pour 2012.
Voilà, le patron de Visa qui a déclaré en 2006 ou 2007 qu'il n'y aura plus, que vous ne pourrez plus payer en liquide avec de la monnaie, votre boulanger, et que vous serez obligé d'utiliser la carte Visa, bien sûr. Donc, au passage, il va prendre 2%.
Est-ce que la solution, justement, ne serait pas que le système s'écroule pour de bon?
On pourrait envisager, mais les conséquences seraient considérables. Je pense qu'il faut simplement... je crois qu'on est rentré dans une période où il faut avoir une attitude de résistance. Je crois que c'est vis-à-vis du système. Mais c'est extrêmement difficile, bien sûr, parce que le système, comme je le disais, le système est puissant, et surtout élimine, élimine toute forme de dissidence, de plus en plus.
Et surtout qu'on a une grippe à ce
bien sûr, et bien sûr.
Vous avez vu, Bloomberg a donné... Attendez, c'est dans ça. Bloomberg est quand même c'est un chiffre de presse économique, financier, un peu comme l'AFP, mais vraiment spécialisé dans la finance, nous donne la semaine dernière une dépêche comme quoi donc un scientifique, un biologiste suédois, je crois, a établi que c'est ce qui se passe en Ukraine est le résultat en fait d'un virus qui a été manipulé dans un laboratoire. C'est-à-dire que c'est pas du tout une création de la nature, contrairement à ce qu'on veut dire, mais ça a échappé, si je puis dire, dans un labo, et que donc ça s'est mélangé, ce qui fait que les gens se retrouvent avec les poumons noirs, littéralement vidés, comme une peste bubonique. Non, mais c'est grave.
L'histoire du laboratoire, je sais pas, mais une chose, moi, mais stupéfait, mais je ne veux pas y voir un...
C'est un hasard.
Non, non, oui. Moi, je...
Mais il y a une chose qui m'a beaucoup
choqué.
Il y a peut-être un hasard.
Pourquoi pas?
Non, mais je crois pas qu'on injecte.
Franchement, je suis d'accord avec vous.
Non, mais on a beaucoup surpris, c'est de découvrir. Vous savez qui est le principal bénéficiaire des ventes de Tamiflu? Vous savez, ça me produit le fameux.
Rumsfeld.
Voilà, Rumsfeld.
Rumsfeld, oui, absolument, c'est incroyable.
Oui, absolument. Ça, j'avais découvert il y a 3 ans. Oui, exactement. Il est toujours actionnaire de la ferme qui fabrique Tamiflu.
Et d'ailleurs, on a vu apparaître dans les grandes multinationales, dont IBM, hein, qui avait prévenu l'ensemble de ses filiales nationales, que, effectivement, un virus allait se balader, qu'il fallait être prêt pour que la filiale puisse fonctionner normalement, même avec 30 à 40% des employés et des salariés en moins, manquant à l'appel, ou malades, ou etc. C'est
cette pandémie à la mode, hein, puisqu'on se rappelle, avant même qu'il y ait les premiers symptômes de la grippe espagnole au Mexique en mars, que notre ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, avait demandé donc à différents spécialistes dans quelle mesure on pouvait faire en sorte de forcer le peuple français à se vacciner.
Oui, juste pour répondre, alors là je vous donne l'info, c'est dans Bild de hier. C'est un lecteur qui me l'a signalé. Bild a retrouvé le contrat original entre le gouvernement allemand et le laboratoire Glaxo pour le signé en 2006.
D'accord.
Attends, c'est dans Bild, hein, ils ont publié le contrat, hein, donc avec aucune obligation factuelle pour Glaxo, avec toutes les et bien entendu la notion de secret, etc., etc. Donc Bild a fait très très fort. Alors Eric Laurent, avant que vous partiez, je rappelle votre livre, La face cachée des banques. C'est un adjectif, la face cachée monstrueuse et horrible de ces banquiers vampires, hein, scandale et révélation. Je trouve que c'est un peu la vérité, scandale et révélation sur les milieux financiers. Ce sont pas vrai. C'est vous qui avez un livre de... Non, c'est pas vous ça.
Non,
c'est le marketing de fond. Franchement, ils auraient pu trouver autre chose quand même. Hein. C'est beaucoup plus, votre livre, c'est bien au-dessus de ça.
Enfin, oui, c'est gentil. Merci. Mais,
vraiment. Donc c'est, ça fait combien de pages? 300. 280 pages, ouais. Voilà, 21 €, donc on peut le payer en 4 fois, je sais pas.
Avec un emprunt.
C'est pas mal ça.
Ah, mais ça m'a pas fait.
Mais je l'ai, hein, je l'ai. Oui,
restez, on a besoin de vous.
On
a besoin de vous pour le prochain livre, surtout, restez en pile.
Voilà,
c'est des sauvres, là, oui.
Non,
c'est mal, mais très bien, c'est ça.
Ah, d'ailleurs, est-ce que vous inquiétez à l'heure actuelle sur...
Non, je disais d'abord ce
sujet. Déjà, il y a beaucoup.
Oui.
Et quand vous en parlez à vos amis, à votre famille, aux amis, quelle est la réaction qu'ils n'ont pas déjà lu?
Ah, ils sont indignés, hein. Je veux dire, ceux qui découvrent parmi les proches, etc., ne pensaient pas que, comme vous d'ailleurs, que le comportement de ce secteur, ce domaine, ce milieu, ce que vous voulez dire, soit aussi, choquant ou... Comment on pourrait dire outrancier, scandaleux.
Mais c'est des vampires obscènes. Mais c'est des vampires obscènes. Non mais vraiment, j'ai pas de nom pour de toute façon. Là, c'est, ce que vous dites là, c'est encore pire que tout ce qu'on nous on donne ici dans cette revue presse. Vous voyez, c'est des infos factuelles quand même. Hein, c'est pas.
Non,
on passe pas.
Mais c'est encore plus horrible parce que vous décrivez leur psychologie, vous décortiquez leur mode de fonctionnement, les restaurants où ils vont, comment ils refont monter. Avant que vous partiez, attendez. Tant pis pour votre rendez-vous qui est juste après. Des fois en retard pour les bonnes raisons. En plus, vous êtes fait mal, donc il faut vous soigner. Alors vous écrivez quelque part, il faut que je le retrouve, ça c'est génial, je voulais lire, que en fait il y a en 1999, les banquiers se réunissent pour sauver le monde. Et je ne sais pas où c'est. Donc il s'appelle le groupe qui veut sauver le monde. Hein, Clinton, donc je suis en train de chercher évidemment.
Non, c'est les hommes autour de Clinton.
Oui, voilà, c'est ça. C'est les hommes
autour de Clinton. C'est-à-dire Rubin, Greenspan et Summers, le fameux Summers qui est autour aux côtés d'Obama aujourd'hui.
Voilà, je l'ai. Évidemment.
En 1999, écoutez bien. La couverture, attends, c'est pas rien quand même, la couverture de Time Magazine montrait Robert Rubin entouré de Lawrence Summers et d'Alan Greenspan, président de la Fed, et titré, donc à ce magazine, hein, le comité pour sauver le monde, 15 février 1999. Non mais réalisez-vous. Attends, ces mecs-là vont détruire le monde, mais ils ont le culot de s'appeler le comité pour sauver le monde. Non mais c'est dingue. le comité pour sauver le monde. Et savez-vous quoi, je vais vous donner quelque chose qui va dans votre sens. En 1998, Philippe Tesson, qui avait des problèmes avec le quotidien de Paris, donc c'était la fin du quotidien de Paris, et un jour on discutait lors d'une conférence de rédaction, il me disait, Édouard Balladur, donc là on est en 98, hein, Édouard Balladur, ou 97, il est en train de tout déréguler, tout va. Et en fait c'est très curieux, tout s'est passé en même temps, aussi bien, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et en France. Édouard Balladur, effectivement, a commencé à libérer les banques, etc. Blabla. Donc, on voit bien que c'était... moi, je suis pas dans les trucs... mais quand même, c'est très intéressant. Alors, je continue à vous lire. Cette offensive médiatique, bien qu'inhabituelle chez Rubin, intervenait avant le vote du Congrès, devant supprimer, tiens, l'amendement de Glass-Steagall et visait à mettre en condition les élus, mais aussi Clinton. Alors, l'amendement de Glass-Steagall, pour nos auditeurs, c'est
qui séparait les banques d'achat des banques de dépôt. C'est un amendement qui avait été édicté en 1933
après la crise de Manœuvre.
Voilà, après la crise de Manœuvre.
Pour personne ne se renouvelle pas.
Pour ça, se renouvelle pas.
Voilà. Donc, c'est vraiment
la
majorité. Voilà. Ouais. C'est l'ultime verrou qu'on a fait sauter.
Oula, ben on a débordé là.
Éric Laurent, moi c'est pas grave. Nous essayons de ne pas mieux, Éric Laurent. Oui, parce que notre intervenant a mis du de l'essence à la place dans un moteur diesel. Donc,
ça n'a pas de sens. C'est parfait, vous pouvez rester interdit.
Et là, je demande, mais j'aimerais beaucoup.
Bon, ça va, vous pas?
Ça va, oui, ça va.
Ok. Éric Laurent, franchement, on vous remercie.
Pendant
vous,
je vous remercie.
Très gentil. Donc, nous, on recommande votre livre, hein, franchement, parce que vous allez voir la vraie face, hein, des vampires.
Dans le détail.
Voilà, et si votre banquier vous appelle pour couvrir votre compte, eh bien, rajoutez 21 euros de plus au découvert, après ça, on ne peut plus à ça. Pour le livre d'Éric Laurent, hein, que votre banquier se fait avoir. Voilà.
Merci. Au revoir, Éric Laurent. Merci encore.